foi et turbulence.
Bonjour et salutations à tous et à toutes, ici François Gloutenay, vous êtes à l'écoute de l'émission Foi et Turbulence, nous sommes le mercredi 20 novembre 2019. Alors bienvenue à cette table ronde qui deux fois par mois accueille des chroniqueurs, des observatrices et des journalistes qui ont le mandat d'analyser l'actualité récente. Nos invités vont nous aider à comprendre les enjeux derrière les faits et les événements qui nous sont rapportés quotidiennement. On demande à ces spécialistes de chercher et surtout de trouver un peu de sens et d'humanité au milieu de toutes ces informations qui nous submergent parfois. Alors, ce qui intéresse nos analystes présents aujourd'hui, c'est toute l'actualité, qu'elle soit politique, sociale ou religieuse, tant nationale qu'internationale. Alors, cette semaine, trois commentatrices et commentateurs viennent discuter et débattre de leur point de vue sur les événements des derniers jours et des dernières semaines. Je vous les présente. Marie-Claude Lalonde, directrice nationale de la branche canadienne de l'organisme Aide à l'Église en détresse. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour.
Participe aussi à cette table ronde Louise-Édith Tétrault, directrice de la revue Rencontre, une publication du Centre culturel chrétien de Montréal. Bonjour, Louise-Édith.
Bonjour, François.
Enfin, Foi et Turbulence accueille cette semaine Simon Maltais, éditeur adjoint, livre religieux aux éditions Nouvelle-Lice, Bayard, Canada. Bonjour Simon.
Bonjour François.
Alors cette semaine, il y aura une question. Aux États-Unis, le président Trump a-t-il du plomb dans l'aile? Les mirages du vendredi noir, les priorités des évêques américains. Mais d'abord, discutons du plomb dans l'eau. Du plomb dans l'eau potable. Alors, soyez immédiatement rassurés. L'eau potable qui sort des usines de traitement est exempte de plomb et d'excellente qualité au Québec, semble-t-il. Mais l'eau que l'on boit dans nos maisons ou dans nos écoles ne serait toutefois pas exempte de plomb, puisque les composantes physiques de la plomberie peuvent occasionner une contamination de l'eau. Alors, une enquête journalistique menée par Le Devoir, les étudiants de l'Institut de journalisme d'enquête de l'Université Concordia et Global News révèlent qu'au Québec, les municipalités et les institutions scolaires qui mesurent le niveau de plomb dans l'eau utilisent une méthode qui, carrément, la sous-évalue. Pour faire leur vérification actuelle, les municipalités et les commissions scolaires du Québec laissent couler l'eau pendant 5 minutes avant de prendre la mesure. Selon Le Devoir, le Québec serait la seule province qui utilise encore cette méthode d'échantillonnage au pays, alors que Santé Canada préconise un échantillonnage après 30 minutes de stagnation. En fait, afin de mesurer le niveau d'exposition maximale, Santé Canada recommande même de tester l'eau après une stagnation de 6 heures. Comme ça, on a une bonne mesure de la qualité de l'eau. Marie-Claude Lalonde, ça vous inquiète tout ça? L'eau que l'on boit pourrait bien ne pas être exempte de plomb.
Bien sûr, c'est inquiétant. Toutes les questions de santé et de santé publique sont inquiétantes. Dans quelle mesure on est touché par ça? Dans le fond, on l'ignore encore. Il y a une question de date de construction des maisons, de la vétusté, on peut le dire, des installations, entre autres à la ville de Montréal. Il y a plein de facteurs qui font en sorte que je pense qu'on devrait être inquiet, mais je pense surtout que ça fait longtemps qu'on devrait être inquiet. C'est pas la première fois qu'on en parle. Je me souviens, il y a des décennies, on en parlait déjà du problème du plomb dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. On a commencé à remplacer certaines conduites, mais sans vraiment dire il faut qu'on élimine le problème. Donc, pour moi, c'est un espèce de faux débat parce que le débat, on l'a déjà fait, les conclusions sont claires et là, tout d'un coup, oups, on se réveille. Alors, c'est sûr que c'est une question dont il faut débattre, il ne faut pas lâcher le morceau, il faut que ça se fasse, il faut que ça change.
Alors, il faut savoir que le plomb est reconnu pour avoir des effets néfastes sur la santé humaine et c'est même à de faibles concentrations, il va affecter le système nerveux et peut entraîner des effets sur le développement intellectuel des enfants de moins de 6 ans. Et ça, c'est toutes les données scientifiques nous le répètent. Et en même temps, ce qu'on est conscient et ce qu'on a découvert, en fait, dans les derniers mois, c'est que dans bon nombre des écoles du Québec, on ne mesure pas la présence de plomb à l'intérieur des écoles. Et les dernières qui l'ont fait ont même condamné l'ensemble des abreuvoirs. Ça aussi, c'est inquiétant, Simon Maltais.
Ben oui, en fait, c'est vraiment le jouer à l'autruche parce que, bon, comme le disait si bien Marie-Claude, c'est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années et le gouvernement du Québec, depuis de nombreuses années, ignore systématiquement les avis de ses propres spécialistes. Donc, on est dans un déni. Est-ce que c'est un déni pour des questions d'argent? Probablement. En tout cas, ça peut être une piste de la réponse. Mais c'est d'autant plus frustrant que les normes émises par Santé Canada se sont resserrées. Et c'est d'ailleurs ce resserrement des normes qui a provoqué le débat. Je dis « débat » en guillemets, là, parce que dans le fond, il n'y a pas de débat à avoir, il faut simplement agir. Parce que bon, les normes étaient depuis 2001 à 10 plombs ouais, PPB, je ne me rappelle plus malheureusement.
10 microgrammes par litre. Là.
Voilà, merci. J'ai noté PPB, mais je n'ai pas noté la signification.
Par milliard de litres.
Par milliard de litres, oui, ouais, c'est ça. Donc, il était à 10 depuis 2001. Or, justement, je pense en avril 2019, ça a été une recommandation de réduire ça à 5 PPB. Donc, de réduire de moitié. Alors qu'au Québec, la norme est entre 10 et 50. Donc, non seulement la norme est floue, mais en plus, elle est pas appliquée. Il y a un cas d'une école au Saguenay où est-ce que, je pense que c'était en 2017 ou 2018, vous me corrigerez, où est-ce que la mesure avait mesuré 250 ppb et le gouvernement a fait « bah, c'est sécuritaire, il n'y a pas de problème.
Ouais. » Alors, il faut dire que M. François Legault, lorsqu'il a appris les données de cette enquête-là, et particulièrement la présence de plomb là, dans l'eau, dans les écoles, a dit ben, « jusqu'à preuve du contraire, oui, c'est sécuritaire, maintenant, on ne veut pas prendre de chance, c'est préoccupant ce qu'on a entendu. » Alors, le gouvernement a aussitôt décidé d'abaisser de moitié la norme de concentration maximale de plomb acceptable dans l'eau potable, mais il a aussi demandé à ce que l'on revoie les méthodes d'échantillonnage, parce que vous avez beau laisser couler l'eau, bien, si vous laissez couler l'eau pendant 5 minutes, bien, forcément, l'eau qui va arriver de l'aqueduc ou enfin de votre système d'approvisionnement ne sera pas touchée par le plomb. Est-ce que le gouvernement de François Legault en fait assez, Louise-Édith?
Bien là, il est un peu forcé par les circonstances de faire quelque chose. Je pense que c'est plutôt la Ville de Montréal qui a annoncé 600 millions pour changer toutes les canalisations qui entrent dans les maisons, entre autres, qui sont encore avec du plomb. Et bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ce qu'on remarque, ce que cette enquête a démontré, c'est une grande inégalité entre les villes et entre les petites municipalités, entre autres, qui n'ont pas ni les fonds, ni le personnel, ni l'expertise, etc. Ce sont souvent là qu'on retrouve des concentrations très, très élevées, des endroits plus pauvres, nettement, et les quartiers plus pauvres de Montréal, avec des vieilles maisons, avec encore des vieux tuyaux, etc. Donc, il y a une question de justice sociale derrière ça. Moi, mon explication, c'est que tout ce qui concerne la plomberie, les égouts, toutes ces choses-là, ce n'est pas très rentable électoralement d'annoncer des investissements dans ce domaine. C'est beaucoup plus rentable de parler de ce qui va se passer dans les hôpitaux, de lancer, de dire pour une ville qu'elle va créer un nouveau centre sportif, qu'elle va... Ça amène des votes. Mais dire qu'on va changer, on va travailler sur les canalisations, c'est pas très, très... et ça peut expliquer une espèce de paresse et d'incurie, il faut bien dire, dans un dossier de santé publique quand même que son importance, en particulier pour les enfants.
Alors, je vous rappelle qu'une enquête journalistique menée par Le Devoir, les étudiants de l'Institut de journalisme d'enquête de l'Université Concordia et Global News a révélé qu'au Québec, les municipalités et les institutions scolaires qui mesurent le niveau de plomb dans l'eau utilisent une méthode qui la sous-évalue. Alors, parlons maintenant des États-Unis. Le président des États-Unis est sur la sellette, encore une fois, direz-vous. Mais cette fois, ses opposants estiment qu'il a franchi une ligne rouge qui pourrait bien mener à sa destitution. Rappelons les faits. Le 25 juillet dernier, Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky auraient discuté au téléphone. pas simplement un petit appel de courtoisie. Le président américain aurait demandé à son interlocuteur d'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, le candidat démocrate qui pourrait bien affronter Donald Trump lors de la présidentielle de 2020. Pire, des gens qui ont entendu cette conversation téléphonique affirment que Donald Trump aurait déclaré qu'il allait débloquer une aide financière à l'Ukraine si le pays menait une enquête sur la compagnie d'énergie Burisma, où le fils de M. Biden est membre du conseil d'administration. Le président Trump, de son côté, nie avoir retenu l'aide militaire prévue afin de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle enquête sur les Biden, père et fils. Louise-Édith, on a l'impression que c'est un, encore une fois, c'est un film là, qui se déroule devant nous. Là. On pourrait imaginer un bon nombre de films là, d'espionnage américain, et là, on a l'impression qu'on n'est jamais à court d'imagination aux États-Unis pour nous faire perdre notre... je ne sais pas quoi.
Ben, cette affaire ukrainienne est beaucoup plus claire que ce qui gravitait autour de l'enquête Mueller sur l'intervention des Russes dans les élections américaines en 2016. Cette fois-ci, là, d'abord, il y a un lanceur d'alerte qui est probablement de la CIA, dont on ne connaît pas le nom. Et puis après, il y en a eu des tas d'autres qui se sont manifestés.
Qui ont entendu.
Oui, et qui ont tous entendu la même conversation et qui sont tous unanimes jusqu'ici. Donc, même avant les audiences publiques, on avait déjà une très, très bonne idée de ce marchandage, aussi du rôle de diplomate de Giuliani là, qui court-circuite les circuits diplomatiques habituels.
C'est l'avocat de Donald
Trump. L'ancien maire de New York, l'avocat personnel de Donald Trump, qui lui risque aussi d'être accusé, je pense. Le prochain qui risque d'avoir des accusations devant les tribunaux, c'est lui. Donc, c'est assez clair pour qui veut bien avoir un minimum d'objectivité. Et là, les audiences publiques ont commencé il y a une semaine.
Oui.
Et il n'y a rien qui a infirmé ce qu'on avait déjà appris par la bande des témoignages à huis clos qui avaient été présentés au Congrès. Alors, l'intérêt de ça, c'est, bon, on s'en va vers une mise en accusation formelle de la Chambre des représentants. C'est très douteux qu'il soit ensuite condamné au Sénat, mais ça va avoir un effet, et c'est ça qu'on discutera tout à l'heure, un effet sur l'opinion publique, forcément. Et juste, par exemple, son attitude la semaine dernière devant une femme qui est l'ancienne ambassadrice en Ukraine, et alors qu'il l'intimide sur Twitter juste au moment où elle va livrer son témoignage, tout ça fait partie un peu de en tout cas, peut avoir une influence sur l'opinion publique.
Alors, du mauvais cinéma, Marie-Claude?
Non, je dirais plutôt du bon cinéma.
Du bon cinéma.
Parce que c'est clair qu'il y a un intérêt, pas seulement américain, mais mondial. Je pense que les yeux du monde entier sont tournés vers ça. Bon, nous, étant voisins des États-Unis, peut-être qu'on est encore moins surpris que d'autres de voir ce qui se passe, parce qu'on a quand même pas mal de nouvelles de la politique américaine. Mais pour moi, Donald Trump, c'est ce qu'on appelle en anglais un « bully ». Hein? Une brute, un tyran, appelez ça comme vous voulez. Et là, il est en train de nous en faire une magnifique démonstration par ses tweets qui sont... bon, il y a toujours eu des tweets un peu fous, mais là, il commente les choses par voie de tweets. C'est quelque chose qui se fait pas.
Intimider, d'ailleurs, les gens qui viennent parler aux audiences publiques.
Mais c'est absolument, c'est ce qu'on étonnant. Appelle dans le langage habituel une entrave à la justice. Et là, il s'en donne à cœur joie et de manière publique. Bon, les mêmes règles ne s'appliquent pas nécessairement là, mais on voit quand même quelque chose là. Et pour lui, c'est une enquête bidon. Il ne se gêne pas pour le dire. Il même dit de manière très arrogante, ben, je vais aller témoigner, moi je vais leur dire ce qui s'est passé, comme si les dizaines d'autres personnes qui avaient témoigné c'était tous des idiots et avec aucune connaissance des faits, alors que certains étaient avec lui au moment de l'appel. C'est du cirque. C'est du cirque et je crois aussi que ça va avoir peut-être une influence sur l'opinion publique, mais de là à se rendre jusqu'au bout, non, je pense que le processus n'aura peut-être pas cette chance-là.
Ben alors, ce qu'on reproche en fait à M. Trump, là, et je veux dire, on imagine bien qu'un président, le président américain, téléphone régulièrement à l'ensemble des autres présidents du monde. Alors, c'est pas ça qu'on lui reproche. Mmh. Mais ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir abandonné ses obligations envers la Constitution américaine en élevant ses propres intérêts au-dessus de l'intérêt national. C'est bien ce que c'est là le nerf de la guerre, ou en fait le point là, sur lequel il pourrait bien tomber, Simon.
Ben oui, tout à fait, parce que là, on parle de partisanerie, on parle d'anticipation des élections. On est parce que bon, dans cette affaire, qu'il y ait raison ou pas de faire une enquête publique sur la compagnie auprès de laquelle travaille le fils de Joe Biden, c'est pas Joe Biden lui-même, disons-le. Mm-hmm. C'est pas le cœur de l'affaire, parce que bon, qu'il colle à l'Ukraine une image de corruption qui, avec cette histoire-là, n'est pas prêt de s'en aller. Mm-hmm. Il est bien possible qu'il y ait pu y avoir des cas de corruption liés à cette entreprise, mais là n'est pas la question. Le président Trump utilise sa position, semble retenir des fonds pour en échange d'une faveur partisane pour favoriser sa propre campagne. Ce qui est triste, un des dommages collatéraux déjà importants de cette affaire-là, c'est encore une fois la réputation de l'Ukraine qui est malmenée, je crois qu'elle a été elle est nommée comme le deuxième pays le plus corrompu en Europe. Le nouveau président Volodymyr Zelensky a été élu en disant qu'il allait faire le ménage, comme beaucoup de présidents le font, disons. Là, beaucoup de ses prédécesseurs. Mais bref, ça, encore une fois, les relents de corruption collent à la peau de l'Ukraine, on pourrait dire, et fait en sorte que le pays reste embourbé, d'autant plus qu'il est dans une situation un peu dramatique avec une guerre civile dans l'est du pays, un voisin russe qui lui aussi est intimidant. Donc, encore une fois, le président Trump semble favoriser les Russes dans cette histoire-là, par ricochet.
En retardant justement l'arrivée là, d'aide militaire. Là,
et en détruisant, en poursuivant, la réputation, la mauvaise réputation de l'Ukraine.
Oui, oui. En fait, c'est d'ailleurs assez étonnant parce que le président Trump se défend en disant, ben, écoutez, vous voyez bien la preuve que je me méfie des gens corrompus. J'ai retardé du plus que je pouvais l'envoi de cette aide militaire-là. Mais une aide militaire qui va permettre justement à l'armée d'Ukraine de malmener d'une certaine manière les Russes là, avec lesquels ils sont. Là. On est en pleine politique là, fiction là, dans toute cette histoire-là. Je regarde Louise-Edith parce qu'on a souvent parlé au micro de Vladimir Poutine, de ses liens aussi avec tout un empire militaire là, de ce côté-là. Et c'est ça qui est au cœur de cette histoire-là.
Bien, pour les Russes, c'est très clair que Poutine l'a dit très souvent, la disparition de l'Union soviétique, c'est une catastrophe géopolitique incroyable. Donc, il y a le rêve de récupérer l'Ukraine un jour. Bien, oui. Il s'est emparé de la Crimée, ce qui est contraire, évidemment, complètement au droit international. Il mène une guerre souterraine au Donbass, là, dans cette région est de l'Ukraine. Et il y a vraiment une intention de récupérer la totalité de l'Ukraine. Ce qui n'est pas, évidemment, ce qui n'est pas la politique menée par le président et qui ne correspond pas à la volonté du peuple en majorité. Mais, donc, c'est une affaire sérieuse. On n'est pas dans des choses sans importance, là. Mais l'intérêt de cette enquête, ce qu'on veut savoir, c'est dans quelle mesure ça va jouer sur les indépendants, les électeurs qui ne sont pas de la base du Parti républicain, qui sont prêts à avaler n'importe quoi de leurs héros, et les démocrates qui sont en grande majorité, évidemment, contre tout ce que fait le président Trump. Mais là, il y a quelques élections récentes qui ont eu lieu dans le pays, dans des régions où Trump l'avait emporté par 20 à 30 points de majorité aux élections de 2016. Et il a perdu beaucoup de ces scrutins-là. Le dernier, samedi dernier, en Louisiane, Là, le gouverneur démocrate a été réélu alors que Trump y était allé trois fois pour soutenir le candidat républicain. Au Kentucky, la même chose. Là, il avait gagné par 30 points. C'est le démocrate qui a remporté l'élection pour le gouverneur. Et en Virginie, les deux chambres du Parlement de la Virginie sont maintenant aux mains des démocrates. Donc, ce sont des scrutins tout récents qui se sont produits après le début de la procédure d'impeachment au Congrès. Et qui montre que c'est peut-être pas perdu pour lui, mais c'est pas gagné non plus. S'il y a un basculement dans des régions qui lui étaient très, très favorables, et là, ça semble beaucoup plus difficile.
Alors, vous avez raison, on voit bien une perte de crédibilité, au moins momentanée, en tout cas pour le président Trump, s'il a déjà eu de la crédibilité. mais ceci dit, les élus démocrates qui ont enclenché la procédure, c'est vrai qu'ils ont la majorité à la Chambre des représentants. C'est donc pourquoi la procédure est arrivée. Mais le problème, c'est que le président Trump pourrait bien échapper à la destitution parce que ceux qui vont le juger, c'est justement le Sénat. Et le Sénat est aux mains des républicains. On a l'impression que, jusqu'à maintenant, en tout cas, les républicains font bloc avec lui. Et donc, les jours de M. Trump ne sont pas comptés, Simon.
Moi, je serais très surpris que la procédure arrive à son terme et que se termine par une destitution. D'ailleurs, il y a eu deux autres procédures de destitution dans l'histoire des États-Unis, puis trois, oui, si on compte celle de Nixon, où est-ce que Nixon a fini par démissionner de lui-même. Mais les deux autres procédures de destitution, dont celle de Bill Clinton et la première, je m'en rappelle malheureusement plus, ont pas abouti. Donc, ce serait surprenant. Effectivement, comme l'a dit Louise Edith, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça va influencer l'opinion publique américaine de façon pérenne. On sait que la base de Trump est très fidèle. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'au sein du Parti républicain, oui, il y a une unité, on pourrait dire, de façade, mais il y a de plus en plus de gens qui essaient de se distancier des politiques de Trump. Puis c'est d'autant plus fascinant quand on regarde, on parlait tantôt de fiction, réalité-fiction, c'est d'autant plus fascinant quand on regarde ce qui se passe des fois à la Maison-Blanche, où est-ce qu'on a des témoignages de proches de Trump qui essaient de faire en sorte de sauver le pays en n'écoutant pas ses ordres et tout ça. On peut perdre des heures et des heures à simplement essayer de démêler le faux du vrai dans toute cette histoire-là. Si bien que c'est l'opinion publique au final et l'effet sur l'opinion publique à long terme qui va être intéressant, disons au moins jusqu'à l'année prochaine.
Pour les présidentielles, en tout cas. Oui. Voilà, Louise-Edith.
Un dernier mot pour dire que Roger Stone vient d'être condamné pour faux témoignage et subordination de témoins. Et ça s'ajoute à tous les proches de Trump qui ont été condamnés depuis un an ou deux. Paul Manafort, Michael Cohen, Michael Flynn, Rick Gates. Alors, tous des gens qui étaient très, très proches de lui, qui l'ont servi, etc., et qui ont tous été condamnés par les tribunaux. Il y a certainement quelque chose à tirer de cette longue série de proches de Trump qui, aux yeux... Et là, les tribunaux, eux, c'est pas... Au Congrès, c'est un tribunal politique. Faut bien sûr. Tandis que les tribunaux ordinaires, ce n'est pas un tribunal politique. Donc, pour quelqu'un qui a le moindrement d'objectivité, il y a certainement une conclusion à tirer de cette longue liste de personnes qui viennent d'être condamnées.
Alors, vous pensez que le peuple américain va tirer cette conclusion, Marie-Claude Lalonde?
Ça, c'est très, très difficile à prédire. Je me souviens des prédictions qu'on avait faites d'ailleurs à cette table sur les élections. Alors, je ne vais pas me prononcer, mais je ne pense pas non plus que la procédure en destitution va être couronnée d'un succès. Mais véritablement, est-ce que c'est la finalité qui est la plus importante ou le processus? Et je pense que ce qui va être déterminant, c'est le processus, c'est les témoignages, c'est ce que les gens vont avoir entendu. Et là, oui, ça peut avoir un effet fait sur le vote. Peut-être même que c'est déjà commencé cet effet-là sur le vote, mais d'ici là, ça a toutes les allures d'un téléroman.
Alors, si vous voulez suivre les dernières péripéties de ce téléroman-là, je vous invite à à écouter la télévision américaine parce que ce sont des audiences qui sont publiques, qui sont télévisées, et vous allez entendre de plus en plus de témoins, en tout cas jusqu'à vendredi, là, qui vont nous rappeler ce qui s'est dit ce 25 juillet 2019 lorsque Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont parlé au téléphone, et pas seulement de la pluie et du beau temps. Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence. Je vous rappelle que mes invités aujourd'hui sont Marie-Claude Lalonde, d'Aide à l'Église en détresse, Louise-Édith Tétrault de la revue Rencontre et Simon Maltais des éditions Novalis, Bayard Canada. Alors, les Canadiens prévoient de dépenser 792 $ pour la période des fêtes cette année, alors que les Québécois comptent dépenser 503 $ selon un sondage Léger Marketing pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce sondage-là, on nous indique aussi que 43 % des consommateurs canadiens ont l'intention de profiter des aubaines du Vendredi fou, ou encore, comme on l'appelle en anglais, le Black Friday. 32 % ont l'intention de se prévaloir des aubaines du Cyberlundi, qui vient tout de suite après le Vendredi fou, et 34 % ont bien l'intention de profiter des soldes, eux, qui ont lieu après Noël. Alors, bref, nous sommes en pleine situation de surconsommation, où, enfin, tout le monde prévoit à se rendre à ces événements-là. Je vous rappelle que le lendemain de Thanksgiving, l'action de grâce aux États-Unis, on appelle ça le Black Friday, et cette année, le Vendredi noir, le Vendredi fou, comme on le traduit ici au Québec, va se dérouler le vendredi 29 novembre, donc dans une semaine. Et le lundi suivant, ce sera le Cyberlundi. La journée des aubaines électroniques, aussi un moment qui est très attendu par les amateurs d'électronique, de logiciels et de tous les appareils, de tous les téléphones. Vous avez l'occasion de sauver quelques dollars, tout ça. Alors, Simon Maltais, vous êtes dans le commerce, puisque vous travaillez pour une maison d'édition qui vend des livres et qui n'est pas nécessairement exempte de tout cet intérêt-là pour le Vendredi fou.
Oui, en fait, depuis quelques années, les commerces fonctionnent beaucoup sous un cycle de période de liquidation. Hein, on parle effectivement du Vendredi fou, mais il y a aussi le Boxing Day, les soldes après Noël. Puis à chaque la plupart des commerces sont dans n'importe quel centre commercial, on réalise il y a des liquidations à tous les 3-4 mois environ. Donc c'est vraiment la machine, la consommation du marketing qui a mis ça en place. C'est sûr que nous, bon, en tant que maison d'édition, notre gagne-pain, c'est de vendre des livres. Donc, effectivement, on n'échappe pas complètement à ça. On n'est pas dans le même registre que ce qui se passe au Vendredi fou, parce que Vendredi fou, c'est principalement des appareils technologiques. C'est ça qui est le plus prisé, disons. Et le livre au Québec est assez réglementé. Nous, on ne peut pas faire de rabais sur nos livres en tant que tel. Ça va être des soldes sur les frais de port, ou ça va être sur les produits dérivés, des choses comme ça. Mais il y a une loi sur le livre qui fait en sorte que nous, on ne peut pas faire des offres si alléchantes que ça. Mais non, malheureusement, on n'y échappe pas. Même que le Vendredi fou commence le vendredi, se termine le lundi avec le Cyber Monday. Donc, on n'y échappe pas. Mais bon, on est vraiment dans une position ambiguë, parce notre mission est quand même de promouvoir une certaine culture, une certaine connaissance du fait religieux. On a une mission qu'on considère louable, mais en même temps, on n'a pas le choix de se plier aux lois du commerce. Mais
on imagine mal, en tout cas, les gens faire la file là, devant les bureaux de Novalis ou de Bayard pour se procurer là, le dernier exemplaire du Prix en Église, par exemple.
Je préférais qu'ils fassent la file devant une librairie, à tout le moins, disons. Disons, parce qu'on est, étant donné qu'on produit, mais on n'est d'habitude pas sur la ligne de front de la vente. Mm-hmm. Mais reste que le Vendredi fou est un phénomène un peu effrayant, faudrait dire. Puis pour s'en convaincre, on a juste allé voir, il existe ce qu'on appelle le Black Friday Death Count, qui met de l'avant toutes les blessés et les morts même qu'il y a eu lors de ces événements. C'est c'est terrifiant à regarder. On parle en ce moment, depuis 2006, de 12 morts et de 117 blessés. Donc, ça nous fait...
Aux États-Unis,
au Canada. Donc, ça nous fait réfléchir sur la consommation.
Alors, justement, c'est un phénomène là, qui prend de l'ampleur aussi. Là. C'est une invention de marketing, là, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, Marie-Claude.
Bien sûr. Puis, même si la création, la bête est américaine, on n'y échappe pas. Et bon, c'est en train de faire le tour de la planète. C'est, d'après plusieurs, le lancement de la saison des achats de Noël. Donc, ça commence à ce moment-là. Mais c'est, pour moi, c'est hors de proportion. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'initiatives hein, pour discuter, faire prendre conscience de ce qui se passe. Il y a le « Don't buy anything day ».
C'est la journée sans achat.
La journée sans achat et qui est la même journée que le Vendredi fou. Et dans l'optique de dire aux gens, vous savez, vous n'êtes pas obligé de consommer, ce n'est pas une nécessité. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et il y a le cyber lundi, évidemment, qui, pour moi, fait un peu partie du Vendredi fou, là. Je pense que c'est un long week-end de 4 jours de folie d'achat. Et avec tout ça, on a créé aussi une autre journée qui est le mardi suivant, le Cyber Monday, et ça s'appelle Mardi je donne, en anglais Giving Tuesday, où on encourage les gens à dire, écoutez, vous n'êtes pas obligés de tomber dans la consommation excessive. Prenez votre argent et faites un don à un organisme qui vous est cher. Alors, c'est un peu l'histoire dans tout ça, mais malgré toutes les initiatives, on contrebalancera jamais le pouvoir d'attraction du Vendredi fou et du cyberlundi.
Alors, justement, tombez-vous dans ce panneau-là? Êtes-vous si attiré par le Vendredi fou, Louise?
Tellement peu que je ne savais même pas que ça existait. J'ai été obligée de faire une recherche sur Internet pour savoir qu'est-ce que c'était le Vendredi noir.
Et vous
même
avez
chose
trouvé
pour
quoi,
le Boxing Day. Ça, le Boxing Day, je savais, je connaissais, mais je n'y suis jamais allée. Non, ça ne fait pas partie de ma culture personnelle, ni de mes intentions, de ma façon de faire du magasinage, absolument pas. Donc, et pour moi, c'est l'idée d'aller dehors au froid et de passer la nuit devant la porte d'un magasin enveloppé dans une couverture pour être le premier à se précipiter sur un étal quelconque. Je trouve ça vraiment de la folie. Même chose pour ceux qui sont prêts à risquer leur vie presque, oui. À se faire piétiner par d'autres clients.
En fait, si je peux me permettre, ce qui est le plus terrifié, ce qui est le pire là-dedans, c'est les employés qui, oui. Eux, n'ont pas le choix d'être présents dans les commerces et dans les morts qui sont recensés. On parle souvent des employés.
Des employés.
Ah, oui, qui sont devant les portes et qui doivent ouvrir la porte d'entrée. Oui.
En tout cas, ça démontre qu'on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour sortir d'une certaine économie de surconsommation. Et c'est pas demain la veille, là. Il y a des initiatives que vient de mentionner ma collègue Marie-Claude, mais avant que ça devienne quelque chose auquel la majorité adhère, on a encore beaucoup de temps devant nous.
Mais on a l'impression qu'au niveau intellectuel, on comprend ça très bien. On comprend qu'il y a tout un phénomène là, de surconsommation, que ça a un impact même sur l'avenir de la planète. Là. Pensons-y un peu là, à tout ce que ça va coûter de matériaux pour fabriquer tous les produits qu'on va acheter cette journée-là, les transporter d'un endroit à l'autre, souvent de Chine jusqu'au Québec. Imaginez tout l'impact de cette journée-là. Et en même temps, on est toujours intéressé par voir ces soldes-là. C'est ce qui nous arrive à l'intérieur de nos circulaires. Là. Et depuis une semaine, toutes les circulaires qui sont déposées devant notre porte mentionnent déjà des soldes de l'avant Vendredi fou.
Oui, c'est sûr. C'est déjà commencé sur les circulaires. Mais même en ligne, hier, j'ai fait une recherche, moi aussi. J'ai tapé Vendredi fou ou Vendredi noir, qui est une autre appellation. Et je n'ai pas trouvé d'articles de journaux. J'ai trouvé les circulaires d'à peu près 200 magasins.
Oui.
Alors, je pense que ça explique bien le phénomène, ça démontre bien le phénomène, qui, comme vous l'avez dit, est très mauvais pour l'environnement, mais aussi très mauvais pour l'endettement. Il faut savoir qu'au Canada, en moyenne, les gens, pour chaque dollar gagné, les gens ont une dette d'1,77 $. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Vendredi fou et au Cyber lundi? Eh bien, on continue d'accumuler et de grossir la dette. Et ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant surtout dans un contexte où il y aurait un ralentissement économique. Donc, ces événements-là, qu'on pense des événements commerciaux et tout ça, ont un impact réel sur l'endettement, sur la vie des gens et sur leur futur.
Alors, un impact sur leur endettement, leur vie future. Il y a les gens qui sont responsables de la Journée mondiale sans achat. Ils disent, eux, ils vont l'expliquer, je pense, de façon fort intéressante. Le rythme de consommation adopté dans les pays industrialisés n'est pas viable pour l'avenir de notre planète. Derrière nos achats se cache de la consommation d'énergie, de la production d'électricité, du transport polluant sur des milliers de kilomètres et la production d'une quantité impressionnante de déchets au quotidien. Allons-y avec la question, Simon. En avons-nous vraiment besoin?
Je pense que la réponse est bien évidente, non. En fait, un autre effet pervers du Vendredi noir, Vendredi fou, peu importe comment qu'on l'appelle, je trouve, c'est étant donné sa proximité avec Noël et l'association qui est faite automatiquement, qui est le lancement de la période d'achat du temps des fêtes, ça contribue à la marchandisation de la fête de Noël et ça nous fait oublier ou à tout le moins déformer le sens de la gratuité. Parce que, bon, dans le commerce, la gratuité, c'est la prime que vous avez à l'achat. C'est la prime que vous avez quand vous achetez une grosse commande, des choses comme ça. Alors que la gratuité est tout autre et n'a rien à voir avec la consommation. Donc ça, c'est d'un point de vue plus anthropologique, on pourrait dire. C'est ce que je trouve très déplorable.
Alors, avec ces mots, je vous rappelle que 43 % de nos concitoyens et concitoyennes vont consommer en intention de profiter des aubaines du Vendredi fou le 29 novembre prochain. Et 32 % vont profiter des aubaines du cyber lundi. Alors, du Vendredi fou, passons maintenant à des priorités. Alors, la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a profité de son assemblée automnale pour adopter le 12 novembre dernier un projet de lettre destiné aux catholiques en vue des prochaines élections. Dans la formulation retenue, le texte commande aux électeurs américains de considérer la menace de l'avortement comme la priorité absolue à combattre. Et lorsqu'on s'est mis à discuter de ce texte-là, vous avez eu des gens, dont des évêques, un cardinal influent, qui est venu pour dire, attention, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en mettant la menace de l'avortement comme la priorité absolue, parce qu'il y en a d'autres priorités qui doivent être importantes pour nous. C'est la question du racisme, la crise environnementale, la pauvreté et la peine de mort. En fait, dit ce cardinal-là, lorsque vous dites que la priorité absolue, c'est la menace de l'environnement, vous appuyez immédiatement des candidats qui seraient républicains plutôt que démocrates qui soulignent tout ça. En fait, c'est le chroniqueur Jocelyn Girard, dans les colonnes de l'agence de presse Présence, qui a été un des tout premiers francophones à lancer ce débat-là. J'aimerais vous entendre là-dessus, Louise-Édith. Ça vous a surpris, ça, cette position des évêques américains?
Non, pas du tout. C'est dans la suite logique de tout ce qu'ils ont émis comme commentaire ces dernières années. Ils sont pro-vie de façon absolue et ils se mettent de cette façon-là à la remorque carrément du Parti républicain. Parti républicain qui est dirigé par qui on sait. Et là, il y a une contradiction parce que si la priorité, c'est la question de l'avortement, à ce moment-là, tous les autres thèmes que Blaise Soupitch de Chicago a mentionné, le racisme, la peine de mort, l'accueil des réfugiés, des immigrants, la justice sociale, l'écologie, et tout ça est totalement, les politiques républicaines sont totalement contraires à ce que prône l'enseignement de l'Église. Donc, en choisissant uniquement la question de l'avortement, ils disent presque à aux catholiques de voter républicain. Et dans le Ça favorise aussi l'extrême polarisation aux États-Unis parce que et un bon signe de ça, c'est quand un prêtre de Caroline du Sud, je crois, Robert Murray, refuse la communion à Joe Biden, oui, tout simplement parce qu'il est démocrate et que le Parti démocrate ne remet pas en cause la légalité de l'avortement. Et donc, ça c'est très, très... Ça s'est passé le 27 octobre dernier. Donc, en fait, tous les politiciens démocrates, à ce moment-là, pourraient être interdits de communion s'ils sont catholiques. C'est ça que ça veut dire. Et ce que d'autres soulèvent aux États-Unis, c'est si on peut priver quelqu'un de communion uniquement parce qu'il n'est pas pour la criminalisation de l'avortement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui soutiennent la peine de mort, qui tiennent des propos racistes? Est-ce que tous ces gens-là devraient être interdits de communion? On pourrait étendre ça à beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres sujets. Donc, il y a un débat très fort aux États-Unis, mais la majorité des évêques sont de ce camp-là, en majorité.
Ben, en fait, il y a le magazine jésuite America qui a dit qu'au moins deux évêques, et ça, entre autres, le cardinal Choupiche, qui ont exprimé leur préoccupation à l'effet que la lettre des évêques américains ne reflète pas la manière dont le pape François suggère que les questions de vie doivent être abordées. J'aimerais vous entendre là-dessus, Marie-Claude. Le pape François ne serait pas d'accord avec tout ça?
Je ne connais pas l'opinion directe du pape François. Je n'ai pas ce genre de connexion, mais pour moi, ça a été... Les évêques américains ont fait un débat de mots. Ce ne sont que des mots parce que tous les thèmes importants sont dans la lettre. Mm-hmm. On dit c'est le fait que ça doit être une priorité absolue. Le problème, il est là. Mais le reste aussi, il est là. Je pense que certains auraient voulu qu'on mette le texte directement du pape François, là, qui vient de Gaudete et Exultate.
Oui.
Mettre ce texte-là, c'était une façon de souligner on suit le pape François. Et on sait très bien qu'aux États-Unis, il y a un clivage chez les évêques. On a les pro-François, on a les anti-François. Alors, en faisant ce genre de commentaires, pour moi, on s'adressait davantage aux anti-François en disant on ne peut pas présenter ce visage-là à la face des citoyens américains et donc on devrait mettre le texte de François. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une guerre de mots, dans le fond. C'est une guerre d'idéologie au sein même du clergé américain. Ça démontre des différences d'opinion qui sont importantes sur plusieurs questions de fond. Je ne sais pas où ça va, comment ça va se terminer, parce que ce n'est que le début. Il y a tout le guide électoral qui va être revu aussi.
Oui.
Et il y aura ensuite les évêques qui participeront assurément dans les débats publics, au moins sur les questions de l'avortement, mais probablement sur d'autres questions aussi. Il faudra suivre ça.
Alors, ce que Marie-Claude nous dit, c'est que c'est au-delà du simple document préparatif aux prochaines élections, aux élections de 2020, en tout cas aux États-Unis, il y a plus que ça à l'intérieur de ces mots-là. Il y a toute une bataille rangée que mèneraient des pro-François et des anti-François, en tout cas, du côté des Américains. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, en tout cas, ici au Canada, ou en tout cas, qu'on ne soupçonne pas.
Ben, allez-y, en fait, Simon. Et pourtant, c'est quelque chose qui est documenté. Bon, on vous dirait qu'il y a effectivement une préparation pour une autre élection, mais celle pour la prochaine élection pontificale.
Va en parler de ça, j'imagine.
Mais je vais peut-être me permettre de parler d'un... C'est rare que je fais ça, là, mais parler d'un livre qu'on a publié cet automne qui s'appelle « Comment l'Amérique veut changer de pape »
de Nicolas Senaise, un journaliste français,
qui met de l'avant justement cette situation de fracture idéologique dans, non pas seulement dans l'épiscopat américain, mais auprès de tous les catholiques américains. Où est-ce qu'il y a une potentielle situation schismique? L'enjeu est que pour beaucoup de laïcs et beaucoup de clercs américains, le pape François est considéré comme trop progressiste dans ses positions. Et ces ultra-conservateurs-là préparent l'après-François. soi, mettre de l'avant des prélats qui ont des positions beaucoup plus conservatrices, beaucoup plus dures et qui cherchent en sous-main finalement à affaiblir la position de François auprès de tous les catholiques au monde, mais bien sûr les catholiques américains d'abord et avant tout. Donc on est dans une lutte de pouvoir, politique américaine, mais aussi interne à l'Église. Et c'est à la fois fascinant et terrifiant. Regardez ça se dérouler sous nos yeux.
Alors, on parle même de schisme. Simon parle de schisme. Vous pensez que ça pourrait aller jusque-là, Louise-Édith?
Non, ça n'ira pas jusque-là, mais la polarisation est assez importante. C'est une Église en crise depuis la question des abus sexuels qui s'est mise beaucoup à la remorque, entre autres, ce que montre le livre de Nicolas Senès, que je vais commenter dans le prochain numéro de Rencontre. Ce que ça montre, c'est que beaucoup de diocèses ont été en faillite, et ça les a mis un peu sous la coupe de très riches donateurs américains qui défendent le capitalisme dans sa forme la plus extrême. Et l'épiscopat un peu, à cause de la crise des abus et de l'ampleur qu'elle a prise aux États-Unis, sont un peu sous la coupe de ces gens-là. Et donc c'est assez... Mais ça n'ira pas jusqu'à un schisme, je ne pense pas, d'autant que dans d'autres régions du monde, il n'y a pas du tout ce même phénomène-là. Mais ça montre le pouvoir de l'argent énormément. Et aussi toute cette question de l'avortement, peu importe aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ça montre d'une certaine façon l'incapacité du clergé, des évêques, etc., de former la conscience des gens dans le sens du respect de la vie. On compte sur l'État et la loi uniquement en voulant la nomination de juges conservateurs pour revenir sur l'arrêt Roe contre Wade de 1973.
Sur la légalisation de l'avortement.
C'est ça, sur la légalisation de l'avortement. Jusqu'ici, cette approche-là, elle n'a pas fonctionné. Il n'y a jamais eu de succès. Au contraire, dans beaucoup de pays, c'est le contraire qui s'est produit. On a légalisé l'avortement plutôt que de l'interdire. Donc, c'est une approche qui n'a pas fonctionné. Elle a détourné des catholiques de l'Église. Elle a favorisé la polarisation politique à un niveau extrêmement dangereux. Elle a laissé le champ libre à des politiques racistes et donc il serait temps qu'ils envisagent une autre façon de promouvoir le respect de la vie que celle-là, mais ça semble pas le cas.
Alors, un dernier commentaire là-dessus, Marie-Claude, il faudrait quand même que les évêques américains, dans leurs consignes aux électeurs et électrices pour les présidentielles, parlent, j'imagine, de sujets aussi comme les armes à feu, comme l'immigration, comme les migrants. Ça aussi, ça divise passablement, en tout cas, les Américains et même l'Église.
Oui, absolument. Il y aura des mentions de quelques-uns de ces sujets-là dans le guide de l'électeur qui est préparé par les évêques américains, mais on nous dit un paragraphe, deux paragraphes. Ça semble quand même un peu timide, enfin. À mes yeux, à moi, ça semble timide. Et je souscris à l'idée de Louise-Édith que le problème, il est plus large que l'avortement. On parle de la peine de mort, entre autres. Il y a plusieurs sujets comme ça. Et si on refusait la communion à tous ces gens-là, on viderait l'Église. Et là, je pense que les évêques doivent aussi être conscients de ça. Ils ne semblent pas en tout cas l'être. Et la seule solution pour eux, c'est de définir une ligne de pensée et d'être capable de faire l'éducation de la population américaine sur ces questions-là. Pas sur les élections, mais sur ces questions-là. Les gens ont une conscience, ils vont s'en servir pour voter, mais ils devraient le faire avec les bonnes informations.
Alors, lorsque le chroniqueur Jocelyn Girard a mentionné dans les colonnes de l'agence de presse Présence tout ce débat-là, aux États-Unis. Il a reçu une bonne volée de bois vert, d'une certaine manière, de gens qui disaient « Non, non, vous n'avez rien compris. Le problème le plus important, c'est la question de l'avortement et tous les autres problèmes doivent être relégués au second plan. » Alors que dans son encyclique Evangelii Gaudium, La joie de l'amour, le pape François il dit « Tant que ne seront pas résolus radicalement les problèmes des pauvres en renonçant à l'autonomie absolue des marchés et de la spéculation foncière et en attaquant les causes structurelles de la disparité sociale, les problèmes du monde ne seront pas résolus, ni en définitive aucun problème. La disparité sociale est la racine des maux de la société. » C'est peut-être le terme qu'auraient dû utiliser les évêques américains, Marie-Claude?
Je ne sais pas si c'est le thème qu'ils auraient dû utiliser, mais c'est très clair que pour le pape François, toutes ces problématiques-là sont reliées. Alors, en quelque sorte, c'est un peu vrai de dire on ne peut pas mettre quelque chose au-dessus des autres parce que tout ça est relié, notamment par les inégalités économiques et aussi par l'environnement. Il y a des impacts, chacune des problématiques a un impact sur les autres, en fait. Et isoler une problématique, effectivement, c'est peut-être s'éloigner d'une solution, mais en même temps, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça prend de l'éducation sur toutes ces problématiques-là et on verra comment ça va se faire, mais ça semble être quelque chose d'assez difficile pour l'Église, non seulement l'Église américaine, mais pour l'Église en général, cette question d'éduquer et d'informer la population sur des questions sensibles.
Louise-Édith, un conseil pour les évêques américains?
Deux choses que je veux dire en terminant. Il y a 103 000 enfants incarcérés aux États-Unis actuellement, enfants d'immigrants, soit séparés de leurs parents ou non, mais j'ai été stupéfaite par l'ampleur de ça. Il y a eu des manchettes sur des cas d'enfants qui sont morts, d'enfants qui étaient séparés de leurs parents, mais je pensais que ça restait quand même assez marginal. Non, 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 pas du tout. Là, on parle de 103 000 enfants. Donc, des vies brisées. Certains ne retrouveront jamais leurs parents qui ont été déportés, etc. Donc, c'est faire passer la vie des fœtus avant celle des enfants qui sont déjà là, des humains qui sont déjà là. Et en terminant aussi, le nouveau président de la Conférence des évêques des États-Unis, Mgr Gomez de Los Angeles, qui est un immigrant mexicain lui-même, est un opposant tout à fait frontal à la répression migratoire prônée par le président Donald Trump. Donc, on voit que, et ça, c'est un enjeu aussi pour l'Église, parce qu'il y a de plus en plus de Latinos aux États-Unis. L'Église catholique est de plus en plus composée, mais ces Latinos ont tendance à fuir vers les groupes évangéliques. Donc, l'avenir de l'Église aux États-Unis, je pense qu'elle est plus dans le sens de Mgr Gomez que de ses collègues-là.
Alors, c'est tout de même fascinant. Quelques mots, en tout cas, à l'intérieur d'une lettre épiscopale américaine qui montre toute une fracture, d'une certaine manière, de la société. Je vous rappelle que la Conférence des évêques catholiques des États-Unis a, lors de son assemblée automnale, adopté un projet de lettre destiné aux catholiques en vue des prochaines élections. Dans la formulation retenue, le texte commande aux électeurs de considérer la menace de l'avortement comme la priorité absolue à combattre. Alors voilà, c'est tout pour notre émission aujourd'hui. C'est le moment où nos collaborateurs et collaboratrices nous donnent une suggestion de lecture ou encore nous invitent à un événement d'actualité. Alors, allons-y avec notre responsable de nos livres, Simon Maltais.
Mais c'est le Salon du livre de Montréal qui commence dès aujourd'hui. En fait, c'est du 20 au 25 novembre 2019. Donc, c'est l'occasion idéale pour venir nous rencontrer au stand 202 ou pour venir rencontrer nos auteurs.
Alors, donc, jusqu'au 29 novembre, jusqu'au vendredi
25.
Fou. Jusqu'au 25. Un peu avant le vendredi fou. Alors, mais quand même, profitez des aubaines chez Novalis.
C'est pas tant des aubaines que rencontrer les gens.
Bien sûr. Alors, Louise-Édith.
Notre dernier numéro, on peut le consulter avec un dossier sur l'éducation sur le site du Centre culturel chrétien de Montréal. Et le prochain numéro qui va paraître au début décembre va porter sur le patrimoine et le piètre état, en fait, de nos politiques pour soutenir et conserver notre très beau patrimoine québécois.
Alors, c'est intéressant parce que le gouvernement du Québec a justement mentionné qu'il allait verser 20 millions de dollars pour le patrimoine. Alors, j'imagine que vous faites état de ces subventions-là, qui sont probablement minimes pour l'ensemble de ce qu'on a besoin.
Sur le total du budget du Québec, c'est évidemment presque rien. Ouais. C'est très peu.
Marie-Claude Lalonde.
Oui, mais moi, en fait, j'ai une invitation. Mm-hmm. Ce soir, à la cathédrale Marie-Reine du Monde, à 19h30, il y a une messe pour les chrétiens persécutés. Donc, c'est une messe qui se veut un geste de solidarité avec ceux qui souffrent à cause de leur foi. Et il y aura Monseigneur Christian Lépine, Monseigneur Dowd et le Père Yacou, qui est de l'Église syriaque catholique. Et justement, nous aurons la chorale syriaque catholique qui sera là. Et on m'a dit qu'on allait chanter le Notre Père en araméen. Alors, j'ai bien hâte d'entendre ça. J'invite les gens à venir. C'est un beau geste de solidarité. 19h30, la cathédrale Marie-Reine du Monde à Montréal.
Alors, qui sera illuminé en rouge, d'ailleurs, la cathédrale?
Oui, la façade de la cathédrale va être illuminée en rouge. Il y aura d'autres bâtiments à travers le pays qui vont être illuminés en rouge. Je sais, ce soir, la cathédrale de Calgary va être illuminée en rouge, celle de Toronto. C'est vraiment un mouvement de solidarité qui fait le tour du monde. Donc, nous, on appelle ça le mercredi rouge, mais c'est toute une semaine d'activités qui s'amorce. Et j'ai vu ce matin les photos de l'Australie où des édifices étaient illuminés en rouge. Alors, si vous suivez ça un peu sur Internet. Et puis, si vous n'êtes pas dans la région de Montréal, vous avez quand même l'occasion de participer au Mercredi Rouge. Nous avons créé une page web. Donc, si vous faites la recherche « Aide à l'Église en détresse Canada », c'est important pour avoir la bonne liste. Et avec le mot « Mercredi Rouge », les mots « Mercredi Rouge », vous allez tomber sur une page où on annonce des activités dans différentes régions. Il y a beaucoup de solidarité, c'est apprécié et je ne peux pas vous dire à quel point quand je parle à des gens qui sont de cette église persécutée, à quel point ils sont touchés et que ça leur donne la force de continuer aussi, de savoir que nous, ici, on pense à eux.
Alors, en terminant, une belle nouvelle, notre émission « Foi et turbulence », on peut la voir d'une certaine manière à l'intérieur d'un documentaire qui a été présenté dimanche dernier pour la première fois, qui s'appelle « Ainsi soit-elle ». Alors, c'est un documentaire sur les religieuses auxiliatrices et une de nos collaboratrices, c'est Suzanne Loisel, qui est membre de cette communauté-là. Alors, on la voit parler lors d'une des questions qu'on lui pose à cette émission-là. Alors, c'est fort sympathique de voir Suzanne Loisel dans ce film-là. Alors, si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle « Ainsi soit-elle » et c'est du réalisateur Maxime Faure. Alors, je vous rappelle que l'émission « Foi et turbulence » est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation « Adieu va ». Notre prochaine table ronde sur l'actualité aura lieu dans 2 semaines, soit le mercredi 4 décembre. On vous y donne déjà rendez-vous. La semaine prochaine à Foi et turbulence, c'est Mathieu Lavigne qui rencontre Hélène Pelletier-Baillargeon, une féministe, une souverainiste, une biographe, une femme de foi, une femme de lettres. Hélène Pelletier-Baillargeon a été notamment directrice de la revue Maintenant. Elle était chroniqueuse et journaliste à La Presse, au Devoir, à Châtelaine, ainsi que conseillère du ministre Camille Lorrain. Alors, c'est une émission à ne pas manquer mercredi prochain. Alors, merci à nos invités cette semaine, Louise-Édith Tétrault, Marie-Claude Lalonde et Simon Maltais. Merci à Mathieu Lavigne, qui est le coordonnateur de cette émission, et à Daniel Fortin, à la régie. À l'animation, c'est François Gloutenay de l'agence de presse Présence. Merci d'être à l'écoute de Foi et Turbulence.